Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a téléphoné en me disant, nous avons pris connaissance de ce pamphlet. Voici, il y a plus que Salomon. Il dit, j'ai essayé de comprendre et j'ai trouvé que c'est un sujet particulièrement difficile que vous avez pris. J'en étais bien conscient moi-même, mais j'avais dit au Seigneur, si tu veux que nous fassions encore un camp, qui pour nous semble bien être le dernier, eh bien, donne-moi un sujet d'abord. Et quand je suis arrivé à Hall, où la décision finale a été prise, en voyant tous ses amis, avec les enfants, les parents, j'ai compris, oui, c'est vrai, ce sera encore bien qu'on ait encore une fois un camp. Pas parce que nous nous croyons indispensables, nous savons très bien que nous passons, et puis que d'autres succéderont. Mais à ce moment-là, j'ai entendu Salomon. Et j'ai pensé, c'est vrai que ces chapitres du milieu de la Bible, on les lit pas tellement. On sait quelque chose de Saül, on sait quelque chose de David, mais de Salomon, au fond. On sait, oui, qu'il a régné, qu'il a été puissant, qu'il a été très sage, mais au fond, qu'est-ce que Salomon peut nous apprendre? Et j'ai compris que pour un camp familial, c'était quelque chose de fantastique. Mais pour cela, il faut lire la parole. Et c'est pourquoi hier, je vous ai dit, ne soyez pas de ceux qui lisent seulement une petite portion chaque jour, mais que vous deveniez de ceux qui lisent la Bible depuis la première page à la dernière. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître les Écritures. Parce que sans ça, on pense qu'il y a des contradictions. Alors, nous allons voir certaines choses ce matin, et nous comprendrons peut-être combien c'est nécessaire de mettre toutes les paroles ensemble pour comprendre ce qui se passe. Hier soir, je vous avais dit que nous parlerions en dehors des péchés que nous avons déjà soulignés et dans lesquels est tombé un roi selon le cœur du Seigneur, David, qui avait été choisi, duquel Dieu avait dit, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe un roi pour moi. Et j'ai souligné hier soir un fait, que dans nos familles, on ne sait pas ce que deviendront nos enfants. Mais Dieu le sait. Alors, le père de David ne savait pas que c'était David qui régnerait sur Israël. Et Dieu le savait. Mais il l'avait pas même invité. Il avait 8 fils, il en a pris 7. Et celui qui n'était pas là, c'était celui que Dieu voulait. Alors, dans nos foyers aussi, avec nos enfants, prions pour chacun d'eux. Et demandons à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux pour lui? Qu'est-ce que tu as arrêté pour ce fils, et réalise-le. La prière d'un père pour ses enfants, il les englobe tous, il n'en oublie aucun. Et puis, ce que Salomon, sa vie, nous rappelle, c'est la grâce de Dieu. David, a péché. Est-ce qu'il a été pardonné? Oui. Mais ce qu'il avait fait avait déplu au Seigneur. Et le Seigneur voulait qu'il le comprenne et qu'il sache que quand nous élevons nos enfants, nous avons des responsabilités à leur égard. Mais évidemment, en se laissant aller au péché, David n'avait plus d'autorité dans sa famille. Je ne sais pas si vous avez écouté hier soir, quand beaucoup me disaient qu'ils ne voyaient pas assez clair. Je ne sais pas s'il y a moins de lampes dans la salle. Oh. Mais enfin, on verra, mais c'est un peu difficile le soir dans la méditation. Mais enfin, nous voulons continuer de lire cette parole et de nous laisser imprégner par ce qu'elle nous en fait. David, comme père, a perdu son autorité. Par quoi? Par ses manquements. Dieu lui a pardonné. Il s'est condamné lui-même quand il a confessé son péché. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est que pendant le temps où il n'a pas confessé son péché, il a été dur à un tel point que le Seigneur a dit, quand il a voulu parler de construire une maison, c'est pas toi qui le feras. Parce que tu étais un homme de sang. Et là, vous avez le jugement de Dieu sur certains actes de David. Dieu laisse faire, mais on a une responsabilité. Un homme, vos enfants, doivent servir au conseil de Dieu. J'aime beaucoup cette expression que nous lisons dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, qui est-ce qui se souvient de ce passage? Que David a servi au conseil de Dieu, puis s'est endormi avec ses pères. Paul, au chapitre 13 des Actes, fait un discours à Antioche de Pisidie. Au verset 16, il se lève, ayant fait signe de la main, il a des Israélites devant lui. Il leur dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, nous tous qui sommes ici, et qui craignons Dieu, écoutons. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel, qui était le dernier juge. Ils demandèrent alors un roi. Vous voyez qu'on retrouve ce que nous avons dit les jours précédents, et Dieu leur donna pendant 40 ans qui? Saül, fils de Kish. Voyez comme c'est important de lire toute la parole qui va éclairer des sujets qui peuvent nous paraître difficiles. dit-il, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté. C'est vrai? Ben, vous avez le récit dans l'Ancien Testament, hein. L'ayant rejeté, il leur suscita pour roi qui? David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, vous retrouvez les textes de l'Ancien Testament, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Et un homme selon son cœur, qu'est-ce qu'il a pu faire? Est-ce que vous êtes convaincu maintenant de, même si on est selon le cœur de Dieu, ce qui pourrait nous arriver si nous ne sommes pas gardés tous les jours, pas simplement je me suis converti il y a X années, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je montre dans ma vie? Et qu'est-ce que nous montrons à nos enfants? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël, est-ce qu'il a dit que c'est Salomon? A suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Donc Salomon ne nous parle dans les choses heureuses qu'il a faites que du Seigneur Jésus. Il faut aller plus loin que Salomon. Il y a plus que Salomon. C'est le texte que nous avons pris pour annoncer ce récit. Avant sa venue, Jean a prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et Dieu voulant, nous aurons en tout cas un baptême. Je ne sais pas si d'autres voudraient saisir l'occasion de ce lac pour être baptisés, s'ils ne le sont pas. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » C'est qui? C'est Jésus, le plus grand que Salomon. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Et croyez-le, toutes les paroles que vous trouvez dans l'Écriture, elles ont tôt ou tard leur accomplissement, soit en bénédiction, car il avait promis une bénédiction, soit aussi en malédiction, si nous le repoussons et si nous refusons sa grâce. Quoi qu'il n'ait trouvé en lui, rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui. Donc, quand nous lisons l'Ancien Testament, c'est le Seigneur que nous devons rechercher. C'est ce qui est écrit de lui qui doit nous être révélé. Ils le descendirent de la croix, le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours dans la Galilée, à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. » Et c'est ce que nous allons voir, les grâces que Dieu avait promises à David, qui sont assurées. C'est pourquoi il dit ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et on y arrive à ce fameux verset. Or, David, après avoir, en son temps, une autre tradition dit, en sa génération, servi au dessein de Dieu. Donc, vos enfants, mes amis, dites-vous qu'ils peuvent servir au dessein de Dieu. Et ils serviront au dessein de Dieu. Nous servons au dessein de Dieu. S'il nous a sauvés, c'est pour que nous servions au dessein de Dieu. Eh bien, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. C'est ce qui arrive. Et nous avons souligné hier, quelle mort voulons-nous avoir? Une mort semblable à celle de Saül, qui se jette sur son épée et qui suicide sur la montagne de Gilboa, ou une mort qui le glorifie et qui l'honore après une vieillesse fidèle. David, après avoir servi au conseil de Dieu, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Voilà pourquoi il est plus grand que David, que Salomon. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Est-ce que les fautes de David pouvaient être justifiées par la loi de Moïse? Non, c'est pas possible. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voilà ce que Paul a prêché dans cette ville de Pisidie. Alors, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes, donc des gens qui avaient une certaine connaissance de la parole, comme ici nous avons reçu une connaissance de la parole, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Voyez-vous, c'est le grand message. Restons attachés à la grâce de Dieu. Et nous allons voir combien la grâce de Dieu a opéré dans la vie de David et aussi dans celle de Salomon. Alors, David a été pardonné. Mais, ce qu'il avait fait, il devait apprendre à se connaître. Et à vivre auprès de Dieu, mais aussi à accepter les conséquences de ces inconséquences. Et c'était peut-être dur la réunion d'hier soir. Quelles ont été les conséquences, les inconséquences du roi David dans sa famille? Nous avons juste dit quelques mots. C'était la mort de ses enfants, les uns après les autres. C'était quelque chose d'effroyable. Mais la première inconséquence, c'est qu'on doit marier beaucoup de femmes pour avoir beaucoup d'enfants. Nous avons des témoignages ici de femmes qui ont eu 9 enfants Mais il y a une femme. Et quand on voit les enfants s'occuper de leurs frères et de leurs sœurs, c'est quelque chose de magnifique. Mais si ce sont des femmes différentes, avec des enfants, oui, qui viennent du même homme, il y a des jalousies, il y a tout ce que vous voulez. Ça ne peut pas être. Or, aujourd'hui, justement, on veut toutes les femmes possibles. Qu'on a des enfants un peu partout. Nous sommes dans un temps solennel. Quelqu'un est venu hier soir me dire, c'est terrible, hein, le temps que nous vivons pour l'Église du Seigneur. C'était un jeune, mais qui comprenait que nous vivions dans un temps terrible. Ce que vous entendez à la radio, ce que vous voyez à la télévision, etc. Pourquoi nous n'avons jamais voulu la télévision, nous? Parce que nous avions aussi des enfants. Et nous sommes souvent loin à cause de ministère. Et on ne peut pas contrôler. Alors il vaut mieux ne pas avoir ça. Pour nous, je ne dis pas pour les autres. Mais c'est chacun pour soi. Nous voyons ce qui peut être juste, ce qui peut être mauvais. Alors il y a des choses dont nous préférons nous séparer. Et ce qui m'a souvent frappé, c'est que des gens qui n'avaient pas l'air de confesser le Seigneur avaient compris cela. Et voulaient préserver leurs enfants de tout ce qui nous est montré, de tout ce qui nous est dit. Comment voulez-vous, quand on vous prêche tout le temps des choses absolument contraires à la parole, qu'ils aient encore beaucoup d'intérêt quand ils entendent les parents apporter les vérités bibliques. Ils n'y croient plus. Combien j'en ai vu de ces jeunes qui me disaient, on va encore aux réunions parce que nos parents ne nous payeraient pas nos études si nous n'y allions pas. Alors, on allait aux réunions et puis on disait, bah, dans une heure, ça ira mieux. Faut les avoir entendus, ces jeunes. Et c'est vrai. Mais si, dans les foyers, il y a une piété réelle, eh bien, on sait qu'on doit traverser ce temps-là. Mais que le Seigneur nous donnera sa grâce. Vous ne savez pas ce que Dieu veut pour votre fils. Alors, Seigneur, montre-le. Et qualifie-le pour une tâche, ou pour une vie, qui soit selon ton cœur. La prière des parents, pour les enfants, et des parents qui seront conséquents avec eux-mêmes, et qui suivront la parole. Mais, nous avons vu combien nous étions faibles, et l'exemple de David est là, pour nous le prouver. Et c'est tous les jours qu'on peut penser à David. Comme c'est tous les jours qu'on peut penser à Abraham, qui a cru Dieu, et parce qu'il a cru Dieu, cela lui a été compté à justice. Et alors nous avons maintenant un homme, c'est le père de Salomon. David, qui est là devant nos yeux. Il a manqué. C'était terrible. Et pendant tout un temps, il s'est endurci et il a fait des choses abominables. Parce qu'il n'était pas avec Dieu. Parce que une fois qu'on a transgressé une loi divine, est-ce qu'on peut demander à Dieu son secours, c'est difficile, on se sent jugé. Alors on ne prie plus. Et quand on ne prie plus, eh bien, on s'éloigne de plus en plus de la parole. Et c'est pour ça qu'il a fait des crimes abominables. Je veux dire, à un tel point que on a dit que c'était les Juifs qui avaient inventé ce que les Allemands ont fait, en suivant ce qu'avait fait David, avec une four crématoire. Alors on sort ça de la Bible. Mais dans quel état était David? Il était loin de Dieu. Et il était insensible. Mais quand il s'est condamné lui-même en disant « L'homme qui a commis ces choses est digne de mort », je lui dis « Il a pardonné. Il peut pardonner. » Mais les conséquences demeurent. Et vous méditerez vous-même sur cette vie de famille. Mais la faiblesse de David, voulant tellement plaire à ses enfants, vous avez remarqué un verset que j'ai cité hier soir. Même s'il n'y avait pas trop de lumière, celui qui a voulu se faire nommer avant Salomon, parce qu'il prétendait avoir les droits, eh bien, il est dit de lui quelque chose qui a dû vous frapper. C'est dans quel chapitre?
Un roi.
Ainsi. Lisons plus le verset 5. Un roi ainsi. Adonijah, fils de Haggi, élevait des prétentions en disant « C'est moi qui serai roi. » Il se procura un char, des cavaliers, 50 hommes. Verset 6. Jamais sa vie durant, son père ne lui avait fait un reproche. Oh, moi, je reproche rien des enfants. Les enfants sont rois. C'est aimer son fils? Non! Pourquoi est-ce qu'ils ont un père et une mère, pour être élevé, pour être éduqué? Jamais sa vie durant, son père ne lui avait fait un reproche. On ne lui avait dit, pourquoi agis-tu ainsi? Mais c'est dans la Bible que c'est dit ça, et ça nous parle. Adonijah était, en outre, fort beau à voir. C'est tellement mignon, mon fils, je ne peux pas lui dire quelque chose. Regardez son sourire. Et il était né après Salomon. Il avait des droits, semble-t-il. Alors, voyez. Nous avons dit hier, un père ne sait pas que dans sa famille, quelqu'un est destiné à devenir roi. Et puis, il n'a jamais repris un de ses fils. Alors il doit payer les conséquences de ses inconséquences, tôt ou tard. Mais ce qui doit vous frapper, quand David a convoité cette femme qui n'était pas la sienne, et il le savait, hein, c'est ça qui est terrible. Il avait pris des renseignements, qui est cette femme nue que j'ai contemplée là, et qu'il fait venir par ordre du roi chez lui, pour coucher avec elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette femme? Elle est mariée. À qui? À un officier de son mari. Ça compte plus dans la passion. Et elle est enceinte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait vivre comme c'est lui qui fait mourir. C'est Dieu qui fait vivre. On parle toujours de régulation des relations sexuelles et tout ce que vous voulez. Si vraiment on était avec le Seigneur, ce serait régulier. Il peut le faire. Mais chacun fera selon qu'il pense. Mais je suis convaincu par la parole que c'est le Seigneur qui fait enfanter. Alors David aurait bien voulu que la femme avec qui il a couché la première fois, peut-être, ne devienne pas enceinte. Hein. Ah, si seulement elle n'était pas devenue enceinte, il aurait été satisfait. Il aurait eu sa satisfaction, mais sa femme serait pas enceinte. Mais voilà qu'elle est enceinte, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a voulu? Qu'est-ce qui a rendu enceinte cette femme? C'est Dieu qui en prend la responsabilité. J'étais à Londres quand j'ai compris cela, il y a bien des années. On m'avait dit que on ne pouvait plus avoir d'enfants à cause d'une terrible maladie qu'avait eu ma femme. J'avais dû partir à Londres pour 3 mois. Puis voilà que il y avait 2 mois que de 2 ans que nous n'avions pas eu de rapport. Mais voilà que elle m'apprend, je suis enceinte. C'était pas parce qu'elle m'avait été infidèle, mais quand on se sépare pourtant de moi, ben on s'était aimé devant le Seigneur. Mais on ne sait pas qu'elle sera enceinte. Et alors vous savez, on passe par des moments terribles. Je me vois encore à genoux devant une chaise à Londres dans une petite chambre où je restais pour 3 mois. Et je priais. J'avais peur. Le Seigneur me parle. De quoi as-tu peur? Est-ce que tu as péché? Non, j'ai pas péché, c'est ma femme. Alors de quoi as-tu peur? De ta belle-mère. Oui. Parce qu'elle dira, vous êtes un insensé. Tu pouvais faire n'importe quoi. Je dis pas que tu pouvais pas prendre ta femme, mais t'avais qu'à faire le nécessaire pour ne pas avoir d'enfant. Et alors le Seigneur me dit, mais donc tu crains ta belle-mère plus que moi? Et ça nous amène à nous humilier. Ça, c'est une fausse peur. Et vous la connaissez, cette enfant? C'est Marie-Lise. Ah, vous savez, Marie-Lise, mais particulièrement cher, parce que dans un autre moment, j'ai mis mon ministère en jeu. Elle avait 4 ans. Elle a été opérée. Elle fait un blocage des reins. J'étais avec elle seule à la clinique. Et elle souffrait atrocement. Le docteur m'avait dit, vous savez, si elle va jusqu'au matin. Et moi, je devais partir pour 3 semaines de conférence à Paris. 15 jours plus tard. Et j'étais là à genoux. Et je disais, mais je prêche aux autres, Seigneur Jésus. Mais je peux pas te demander la guérison de Marie-Lise, de ma fille. Et à un moment donné, c'était 3 heures du matin, elle souffrait pleinement. Je lui ai dit, Seigneur Jésus, si tu ne me réponds pas, je ne peux pas dire que tu es le Dieu qui répond. Mais je ne te demande pas la guérison. Ou tu la reprends, ou tu la guéris. Et instantanément, à ce moment-là, la petite dit, papa, pipi. C'est court. Elle était débloquée. Mais vous savez, c'est des choses qui vous marquent. Ça fait mal. Parce que j'avais dit, si tu ne me réponds pas, je ne peux pas prêcher. J'écrirai à Paris qu'il me manque quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a des luttes dans ce combat. Si on n'était pas appelé au service du Seigneur, on ne peut pas tenir. on peut pas tenir le coup. Mais elle est là. Elle aurait aimé être avec vous. Elle vous salue. Elle vous dit son amour. Nous avons des moments difficiles dans les foyers. Mais le Seigneur est tout puissant. Alors, cherchons la pensée du Seigneur. Il va vous répondre pour chacun de vos enfants. Et vous invoquez le nom de Jésus sur chacun de vos enfants. Et c'est le nom qui les sauve. Elle ne nous a pas donné des enfants pour la perdition. Alors, ils peuvent s'écarter. Nous ne pouvons pas les approuver dans tout ce qu'ils font. Tenez la fille de Marie-Lise. Elle est venue l'autre jour pour ses 30 ans. Hein. Puis elle avait un truc là au nez. Je sais pas comment vous appelez ça. J'ai dit, ça a déjà la marque de la bête. Ça a fait une réaction. J'ai dit, on voit que ça sera très facile de prendre une marque. Là, ce que tu as, pourquoi tu mets ça? Parce qu'elle est baptisée, elle a confessé le Seigneur, mais tout le monde le sait. Elle était allée en Allemagne, elle était dans ce milieu-là. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous l'avez supporté, je sais que vous l'avez vu, on vous remercie de l'avoir entouré aussi. Mais c'est pas parce qu'on approuve tout qu'elle a ça. Le Seigneur est bon. Il nous faut persévérer et rester dans la confiance. Mais reprenez cela pour vous-même quand vous serez hors du camp. La vie familiale de David, avec toutes ces femmes qui ont eu des enfants de lui, et les uns et les autres se sont massacrés. Et même un fils a voulu se révolter contre son père, de sorte que le père a quitté la ville de Jérusalem pour se rendre justement à ce fameux Mahanaïm où il s'est réfugié pendant un temps. Mais il est revenu. Mais il a perdu aussi ce fils. Et quand il l'a perdu, massacré par un de ses officiers, il était dans sa chambre, il pleurait, mon fils, mon fils, mon fils à tous. Il aurait voulu être mort à sa place. Et c'est ça, les sentiments de David, il les avait quand même. Mais j'ai dit que, à part toutes ces épreuves, qu'il a eu, la plus grande qu'il ait eu, c'est quand après avoir été pourtant pardonné, eh bien, il a été tenté de savoir, après la mort de Saül, quand il était nommé roi, parce que les rois meurent aussi, Saül est mort à cause de son péché, et puis c'est lui qui est nommé roi, que va-t-il faire? Je voudrais savoir sur combien de peuples je règne. Pour quelle raison? Parce que je connaîtrai ma puissance. Mais de quelle puissance il aurait pu parler, lui? Pendant tout le règne de Saül, qu'est-ce que Saül voulait faire de David? Le tuer! Alors, reprenez tout ce récit et voyez combien David était au courant de la puissance de Dieu qu'il avait gardée. Et il avait eu lui aussi l'occasion de se débarrasser de son beau-père, de David, de Saül. Et il l'a pas fait, parce qu'il voulait pas mettre la main sur loin de l'Éternel. Il le reconnaissait, alors qu'il était son ennemi qui le poursuivait. Il n'a pas voulu, lui, le mettre à mort. il doit mourir, c'est Dieu qui fait mourir. Alors vous avez tout cela dans l'écriture. Comme je sais que vous savez lire, je vous laisserai lire tous ces récits. Mais vous allez y penser très sérieusement. Et alors vous comprendrez que ce que veut dire ce passage qui souligne c'est au 2 Samuel, chapitre 24. La colère de David, la colère de l'Éternel, s'enflamma de nouveau contre Israël. C'est Israël qui ne marchait pas bien. Et alors, il va employer qui? Le roi d'Israël. David. La colère de l'Éternel excita David contre Israël en disant, va, fais le recensement d'Israël et de Juda. Alors il semble que c'est vraiment Dieu qui l'a inspiré. Alors prenez maintenant dans 1 Chronique. Et c'est pour ça que vous devez lire toute la Bible. 1 Chronique, chapitre 21. Qu'est-ce que vous lisez dans le chapitre 21, les premiers livres des Chroniques? Satan se dressa contre Israël. Alors, est-ce qu'il y a contradiction? Non, réunissez les deux passages. Satan se dressa contre Israël. Et il excita David à faire le recensement d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a en nous? L'esprit, l'âme et le corps. Hein? Alors, Satan, il veut toujours dominer sur notre âme, nos sentiments, nos émotions. Et alors, à un moment donné, le pauvre David voudrait savoir quelle est sa puissance, mesurer sa puissance. Mais c'est pas ma puissance que je dois mesurer. Ce que je dois contempler, c'est quelle puissance? La puissance de Dieu est repassée dans mon cœur tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à ce jour. Ne regardez jamais à votre force, à votre puissance. Si j'avais regardé à ma force, je serais pas venu avec vous ces années. Mais ce n'est pas cela qui compte. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que tu es puissant, oui ou non? Est-ce que tu le veux, oui ou non? Le jour même où j'ai accepté, là, où nous nous étions pour le culte, d'envisager encore un camp Mahanaïm, quelques heures après, le Seigneur m'a donné une parole. Ton Dieu a commandé ta force. C'est pas bon de s'occuper de ça. Mais il faut aller dans la foi. Il m'a pas dit que je n'aurais pas de souffrance, mais je sais que je suis où je dois être aujourd'hui. Alors, reprenons chapitre 24 du deuxième livre de Samuel. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Israël faisait? Ils avaient fait des hauts lieux, et puis David n'avait pas détruit ces hauts lieux. Alors on allait un peu partout pour offrir des sacrifices. Et puis comme on épousait des femmes étrangères, ces femmes étrangères, elles avaient leur culte, et puis elles entraînaient leur mari. Alors, puisque David devait servir en sa génération au conseil de Dieu, Dieu prend David, comme vous l'avez lu dans chapitre 13 des Actes, et nous devons comprendre cela. Et vous comprendrez pourquoi il y a eu 70 000 personnes mortes en Israël après ce recensement. Mais là, vous verrez que David n'est plus le même. Parce que vous voyez, il ne peut pas y avoir de contradiction dans l'Écriture. Cet ordre que David a donné, qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 8, au chapitre 20? Donc, que David a donné, déplut à Dieu, qui frappa qui? Israël, parce qu'Israël avait péché. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Il a la conviction de péché. Maintenant, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai tout à fait agi en naissance. Je ne sais pas quelle tradition vous avez, mais c'est cela. Et revenez maintenant au chapitre 24 du deuxième livre de Samuel, au verset 10e. Qu'est-ce que vous lisez? David sentit dans son cœur. Il a été parlé du cœur, hein, et c'est dans le cœur qu'on sent les choses. Les décisions, elles se prennent du cœur. David sentit dans son sentit battre son cœur. Après qu'il eut compté le peuple, David dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. Là, c'est la même chose que dans les chroniques. J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai agi tout à fait en naissance. David se leva le matin, et la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Gad, le voyant de David en ces mots, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux, et puis nous l'avons lu hier. Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? Les trois jours, hein. Cette année de famine dans ton pays, non. 3 mois de fuite devant tes adversaires qui te poursuivront, non. Seras-je alors 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, prends-en connaissance et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande détresse. Et vous savez, c'est dans la détresse qu'on va chercher le Seigneur. Et il répond dans la détresse. Et qu'est-ce qu'il dit? Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Faut que ses paroles vous restent. Mais que je ne tombe pas entre la main des hommes. Alors l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Donc ça ne dure pas plus longtemps que ce qu'il a dit, hein, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Mais en ces 3 jours, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. C'était donc tout Israël qui avait péché. Et c'était à cause du péché d'Israël. Mais il employait David pour cela. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel eut du regret. Vous savez, c'est une œuvre inaccoutumée pour Dieu de juger. Il aime pardonner. Alors croyez-le, Dieu est un Dieu de bonté. L'Éternel eut du regret à cause de ce malheur. Et il dit à l'ange destructeur qui était parmi le peuple, assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aroma, le Jébusien. Et vous savez que cette air d'Aroma, le Jébusien, c'est quelle montagne de Jérusalem? Aujourd'hui, où est construit le temple? Le temple des... Hein? Des musulmans. Sur quel mont? Une partie du mont Sion, oui. Mais qui s'appelle comment? Hein? Non, c'est à Jérusalem. Hein? Je comprends pas. Morija? C'est le mot Morija. Et qu'est-ce qui a été dressé sur ce mont bien avant? Isaac devait être sur cet autel immolé à cause de l'obéissance d'Abraham. Vous avez cela dans le chapitre 22 de la Genèse. Dieu dit à Abraham, verset 2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se lève devant ma terre, et c'est là qu'il a eu la délivrance. Que l'Éternel y a pourvu. Et alors, nous terminons dans quelques minutes ce lieu-là, si vous venez au chapitre 23, du deuxième livre de Samuel, c'est dans ce lieu-là que sera bâti, quoi? Le temps. C'est dans l'ère d'Aroma que sera bâti le temple. De Samuel 23, c'est sur les dernières paroles de David, on le reprendra ce soir. Chapitre 24. Je lis au verset 17 du chapitre 24. Donc après il est dit assez. Hein. David s'adressa à l'Éternel quand il vit l'ange qui frappait parmi le peuple et il dit, voici c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis la faute. Mais le peuple, qu'a-t-il fait? Que ta main soit donc sur moi et sur ma famille. Ce jour-là, Gad arriva chez David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arona, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arona regardait d'en haut, c'était le propriétaire de ce coin. Il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Alors Arona sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arona dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter l'air, pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin de que la plaie se retire du peuple. » Et Arona dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre ce qui lui sombra bon. Vois, le bétail sera pour l'Holocauste et les herbes avec l'attelage serviront de bois. Le roi, ô roi, Arona donne tout au roi. Arona dit encore au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Arona, non, je te l'achèterai en bonne et due forme et pour un prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes gratuits, des holocaustes qui ne coûtent rien, dit notre traduction. David acheta l'air et le gros bétail pour 50 sicles d'argent. David bâtit un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices. Donc nous allons nous arrêter là. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays qui retira la plaie d'Israël. Et si Dieu nous permet d'arriver à ce soir, nous envisagerons comment, alors, David, maintenant, a pu enseigner Salomon. Et on va voir qu'il nous est révélé que malgré toutes ses insuffisances, David a eu à cœur de s'occuper de son fils, Salomon, et de lui enseigner les vérités que nous allons retrouver dans la bouche de Salomon quand il est seul devant Dieu. Et c'est ce que son père avait pu lui dire. Après qu'il a été humilié et qu'il a été restauré, il a eu encore la possibilité d'enseigner Salomon dans la vérité. Dieu notre Père, nous voulons te demander que nous devenions des lecteurs de ta parole, et que nous en soyons imprégnés, que nous n'y voyions pas des contradictions, mais que nous puissions mettre ces paroles ensemble et qu'elles nous éclairent, qu'elles illuminent nos vies et que nous puissions dire oui, ta parole est la vérité. C'est la grâce que nous te demandons pour ce camp en Jésus-Christ. Amen. Comment? Oui. Ah oui. C'est vrai. Mais je pense que nous allons assister à un temps où les choses vont aller très rapidement. Voyez Assad, par exemple, qui faisait peur à tout le monde, le président de la Syrie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Un jour, on meurt. Son fils n'a pas tout à fait les mêmes idées. Mais c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. Et on devient, on est dans sa main des instruments. Mais nous faut rechercher sa volonté. Et puis toujours nous souvenir que c'est un Dieu de grâce. Pour lui, je le répète, juger, c'est un travail inaccoutumé. Il a envoyé son Fils pour que nous ne soyons pas jugés. Alors c'est pour ça que j'ai dit, on peut mettre encore 3 heures à tout ce qui est dit là. Hein. 7 ans, 3 mois, 3 jours, mais qu'est-ce qui nous a enlevé nos péchés? Les 3 heures où il était seul sur la croix. Quand à midi, le ciel s'est couvert, c'était la nuit, et qu'on a entendu cette voix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est dans ces 3 heures que nos péchés ont été expiés. C'est formidable. C'était dans la pensée de Dieu. Ô Dieu notre Père, nous permettons encore toute cette journée qu'elle soit remplie de toi pour les petits enfants, pour les adolescents et pour nous, les personnes âgées, et que dans cette journée, nous puissions savoir que tu nous parles et que tu t'occupes de nous. Tu veux entrer dans nos problèmes et les résoudre et nous donner ta lumière. Oui, envoie ta lumière et ta vérité et que nous sachions que tu as tout en main et que rien n'arrive sans ta volonté et que cette volonté nous puissions la trouver telle que ta parole nous le dit, bonne, agréable et parfaite.